19h passées à l'intérieur des frontières toujours fermées de l'Union européenne, et ce, jusqu'à nouvel ordre.
Dès lundi, et jusqu'à nouvel ordre.
Quel silence, hein.
Il veut nous guérir du coronavirus à travers l'écran.
Il n'y a pas de virus, il n'y a rien du tout pour moi, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, comme les grippes, comme d'habitude, rien. Voilà.
Ça va?
Oui, très bien.
Petit coup de coude, même à distance maintenant.
Moi, je suis plutôt namasté, moi.
Ça va alors?
J'ai donc décidé, jusqu'à nouvel ordre.
Je veux dire, la vague arrive, elle va arriver ici et ça va secouer sérieusement.
Aujourd'hui, on sait très bien que la situation sanitaire, elle est grave.
À partir de ce lundi, jusqu'à nouvel ordre.
Jusqu'à nouvel ordre. Le journal de bord et des débordements des bénévoles de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi à 19h.
Dans la nuit de lundi à mardi, je m'apprête à aller me coucher. Épuisé par la solitude d'un confinement à peine gommé par les tentatives de lien social en virtuel. J'ouvre une dernière fois mes mails pour m'assurer de ne pas être passé à côté d'un message essentiel. Je me rends compte très vite que j'ai bien fait de prendre cette précaution nocturne, puisque je vois un mail de « ne pas répondre ». L'objet de son mail, la gestion de mon dossier social étudiant. Curieux, j'ouvre ce mail et découvre en pièce jointe une lettre de la ministre de l'Enseignement supérieur. Généreuse comme peut l'être l'avare de Molière, elle annonce l'augmentation, à titre exceptionnel, de la mensualité de la bourse de décembre à 150 euros. Je regrette très vite que l'émetteur de ce message se nomme « ne pas répondre » puisque j'aurais aimé y rétorquer quelques mots. Tout d'abord, c'était trop demander à Frédéric Vidal d'appliquer cette augmentation de la bourse étudiante au mois de janvier, les bars et restaurants étant pour beaucoup un vivier de ce qu'on appelle les jobs étudiants, voire à un mois plus ultérieur pour laisser le temps aux commerces fermés de se redresser et donc d'éviter à beaucoup d'entre nous de se tourner vers McDonald's. Mais il n'y a pas qu'à ça que j'aimerais répondre. 150 euros. Ce montant n'a de solidaire de la part de l'État que la prétention. Aujourd'hui, 150 euros... Le plus haut échelon de bourse s'élève aujourd'hui à 5 679 euros répartis sur 10 mois. Cela équivaut à une mensualité de 667,9 euros le long de l'année universitaire. L'augmenter de 150 euros pour le mois de décembre revient donc à gagner la moitié d'un SMIC. Je ne parle pas de celles et ceux qui ne bénéficient pas d'une bourse aussi élevée. Une fois ce constat établi, je déplore que ce « ne pas répondre » n'ait pas ajouté la mention « et joyeux Noël » en conclusion de son mail. Je regrette enfin de ne pouvoir poser une question à ne pas répondre. L'UNEF publie tous les ans un classement des villes étudiantes les plus onéreuses. En regardant le classement de cette année, les dépenses d'un ou d'une étudiante dans la ville la plus chère de France, Paris, s'élèvent en moyenne à 1318 euros. C'est presque deux fois plus que l'échelon le plus élevé de la bourse une fois l'aide exceptionnelle de l'État perçue. Les dépenses d'un ou d'une étudiante dans la ville la moins chère de France, Limoges, s'élèvent en moyenne à 791 euros. C'est toujours plus que le plus haut échelon de la bourse, malgré les aides exceptionnelles du ministère de l'Enseignement supérieur. La question que j'aimerais donc poser à ne pas répondre est la suivante. Pourquoi ne pas augmenter le montant de la bourse à l'équivalent d'un revenu décent, pourquoi pas d'un revenu étudiant, au lieu de laisser les étudiantes et étudiants du supérieur étouffer sous les coups du travail universitaire, doublé du travail alimentaire pour pouvoir continuer de payer son loyer? Vous écoutez Radio Campus Paris.
Jusqu'à nouvel ordre, du lundi au jeudi, à 19h, sur Radio Campus Paris.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Jusqu'à nouvel ordre. Un an s'est écoulé depuis qu'Anas, étudiant à l'université Lyon 2, s'est immolé devant le Crous de la même ville pour dénoncer la précarité étudiante. S'il lui reste encore des plaies ouvertes, comme il l'a déclaré dans sa première déclaration publique la semaine dernière, il a pu reprendre ses activités étudiantes et syndicales en cette rentrée, ayant recommencé à marcher et même parler il y a quelques mois. Je me demande en revanche ce qu'Anas pense, un an après son geste mortel, de la précarité étudiante, inchangée, voire amplifiée par la crise de Covid-19. La précarité étudiante, donc, vous l'aurez compris, au programme de cette émission. Dans un instant, Ulysse Gutmanfort, président de l'association COPEIN Solidarité Étudiante, tire la sonnette d'alarme au micro de Glenn. Ce sera juste avant de retrouver Adrien Liénard, responsable des questions sociales au bureau national de l'UNEF. Deux interviews qui seront suivies d'un point sur l'actualité de la semaine, ce sera avec la revue de presse de Gwen. Dans le Zoom ce soir, il ne s'agira non plus de la précarité, mais bien de l'appropriation par la jeunesse d'enjeux climatiques de notre époque. Une mobilisation qui a fait l'objet d'un documentaire, désobéissant.e.s, disponible sur arte.tv. Leurs réalisatrices Alizé Schiappini et Adèle Flo en parleront au micro d'Audrey. Ce sera bien sûr avant de conclure cette émission avec la chronique d'Alexandra sur l'Ouroboros Steak. Elle vous en dira plus tout à l'heure. Jusqu'à nouvel ordre, nous émettons jusqu'à 19h55 sur les ondes de Radio Campus Paris. Merci d'écouter le 93.9.
Jusqu'à nouvel ordre, du lundi au jeudi à 19h sur Radio Campus Paris.
Mais avant de rentrer dans le vif du sujet de cette émission, je vous propose de faire un tour aux États-Unis pour parler des liens de la maintenant deuxième puissance mondiale avec Israël. C'est avec la chronique de Mathilde.
Jeudi 19 novembre, Mike Pompeo, secrétaire d'État des États-Unis, visitait les colonies cisjordaniennes pour célébrer les liens entre les États-Unis de Trump et Israël. C'est la première fois qu'un responsable américain de son rang se rend dans de telles colonies, qui sont toujours considérées comme illégales au vu du droit international. Pour commencer, il faut savoir que la relation entre les deux pays remonte à très longtemps. Il y a une très forte communauté juive aux États-Unis et en 1948, lors de la création de l'État d'Israël, Truman, alors au pouvoir, reconnaît immédiatement le pays. Au début, les relations sont un peu tendues, comme par exemple lors de la crise du canal de Suez en 1956, où Eisenhower, président des États-Unis de 1953 à 1961, menace Israël d'un embargo et force le pays à se retirer du Sinaï. C'est en fait réellement après 1967 et la guerre des Six Jours que le soutien américain devient récurrent. Pour rappel, la guerre des Six Jours dure du 5 au 10 juin 1967 et oppose Israël à l'Égypte, la Jordanie et la Syrie, se soldant par une victoire israélienne. Le président Carter suivra une politique pro-israélienne, tout comme Reagan, qui au moment de partir en 1988 s'abstient sur une résolution sur la reconnaissance de l'OLP, c'est-à-dire l'Organisation de Libération Palestinienne. Ensuite, en 1991, Bush père, après la libération du Koweït, engagera les négociations de Madrid entre Israël et les États arabes. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que depuis la guerre des Six Jours, les États-Unis et Israël ont une relation très forte. Une alliance qui dépasse les couleurs politiques des gouvernements et qui risque de durer encore longtemps.
Alors, qu'est-ce qui a changé avec Trump ?
Eh bien, il s'avère qu'aucun président n'avait autant fait pour Israël que Trump. Durant son mandat, il a reconnu la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan, mais aussi sur Jérusalem-Est en tant que capitale. Il a aussi annoncé que désormais, le mouvement Boycott des investissements et sanctions, BDS, qui vise à faire pression sur Israël pour qu'il respecte le droit international, serait considéré comme antisémite. De plus, tous les canaux de communication entre les États-Unis et les Palestiniens ont été rompus. La visite de Mike Pompeo était donc un hommage à cet héritage géopolitique. Il s'agissait d'une image forte pour montrer à quel point les années Trump ont marqué les relations entre les États-Unis et Israël. Il a aussi visité le plateau du Golan annexé et participé à une réunion avec Benjamin Netanyahou et le ministre bahreïnien des Affaires étrangères, Abdul Latif Ben Rachid Al-Zayani.
Et du côté palestinien, que s'est-il passé ?
Justement, il est intéressant de remarquer qu'au même moment se déroulait une autre réunion entre l'AP, l'autorité palestinienne et les Israéliens. Il faut savoir qu'après l'annexion de la Cisjordanie, Ramallah, capitale administrative de l'autorité palestinienne, avait décidé de couper toute relation avec Israël, renonçant par conséquent aux taxes et aux droits de douane que l'État hébreu récolte pour les Palestiniens, comme ils n'ont pas le contrôle sur leurs frontières. En rétablissant la coopération avec Israël, l'autorité palestinienne va enfin pouvoir récupérer cet argent. Officiellement, ces discussions ont eu lieu car Israël a garanti qu'il respecterait les accords déjà signés. Mais cette action peut aussi être perçue comme une main tendue à l'égard de la nouvelle administration américaine. Suite à l'élection de Joe Biden, le président Mahmoud Abbas, président de l'État de Palestine et chef de l'OLP, a félicité le futur président et a écrit qu'il avait hâte de travailler avec lui pour renforcer les relations palestino-américaines et assurer la liberté, la justice, l'indépendance et la dignité pour le peuple palestinien, ainsi que d'œuvrer pour la paix, la stabilité et la sécurité pour tous dans la région et dans le monde.
Et du côté américain ?
De son côté, Joe Biden a tenu à rappeler le soutien indéfectible des États-Unis envers Israël et que la sécurité du pays serait toujours une priorité. Néanmoins, il se dit prêt à reprendre la communication avec les Palestiniens et Kamala Harris, sa vice-présidente, s'est positionnée à l'encontre de l'annexion et de l'expansion des colonies israéliennes. On peut imaginer que la nouvelle administration reviendra donc à la position classique d'une solution à deux États.
Au niveau international, quelle est la réaction ?
Alors, en ce qui concerne la visite de Mike Pompeo, la communauté internationale s'est tue. En revanche, du côté de l'ONU, une résolution a été adoptée ce vendredi 20 novembre à 163 voix contre 5, mettant l'accent sur le droit pour le peuple palestinien à l'autodétermination. Elle fait partie d'un vaste ensemble de 20 résolutions pro-palestiniennes qui sont adoptées par l'Assemblée générale chaque année. Les États-Unis, toujours sous l'administration Trump, ont évidemment voté contre.
Qu'est-ce que change donc concrètement l'arrivée au pouvoir du président Joe Biden ?
Même si des processus de paix entre Israël et Palestine ont toujours existé, depuis la prise de pouvoir de Trump en 2017, les relations entre la Palestine et les États-Unis se sont énormément dégradées. C'est pour cela que même si la relation entre Israël et les États-Unis restera toujours forte, l'arrivée au pouvoir du président démocrate Joe Biden permettra probablement d'apaiser le climat de tension dans la région. Le dialogue commence à être rétabli et l'on peut espérer que c'est un premier pas vers la paix.
Merci Mathilde pour cette mise au point. Restez avec nous sur le 93.9, on parle de précarité étudiante juste après cette pause musicale jusqu'à nouvel ordre. C'était ACAB de The Oppressed sur Radio Campus Paris, car rien de tel que la musique pour imager la lutte contre l'état policier, ou du moins jusqu'à nouvel ordre. Vous écoutez Radio Campus Paris. Tout de suite, je laisse la main à Glenn. Il reçoit ce soir Ulysse Gutmanfort, président de l'association Copéen Solidarité Étudiante, puis Adrien Liénard, responsable des questions sociales au Bureau National de l'UNEF. Leur point commun ? La lutte contre la précarité étudiante.
Selon l'Observatoire national de la vie étudiante, 46% c'est la part des étudiants qui cumulaient études et petits boulots en 2018. Pourquoi prendre l'année 2018 ? Eh bien parce que cette année, c'est la dernière année complète d'études avant que l'on entende parler d'un mystérieux virus chinois à l'étrange nom de Covid-19 qui est venu mettre un sacré pagaille dans les statistiques. Avec les deux confinements, c'est une grande part de ces étudiants qui ont perdu leur emploi de complément, voire de subsistance, et qui sont aujourd'hui plongés dans une grande précarité. En parallèle, il y a d'autres étudiants pour qui la situation est aussi devenue très difficile depuis les derniers mois. Ce sont les étudiants étrangers qui sont en proie à de multiples difficultés, que ce soit pour leurs cours, mais aussi financièrement et au niveau de l'administration. À ce titre, certains étudiants qui n'arrivent pas à renouveler leur titre de séjour en ce moment pourraient très rapidement se trouver en situation irrégulière, vous l'entendez tout à l'heure. Deux sujets que nous avons voulu lier ce soir pour montrer à quel point la crise sanitaire a rebattu les cartes en ayant balayé avec elle beaucoup d'étudiants qui se sentent souvent très seuls face à leurs difficultés. Pour en parler ce soir dans Jusqu'à Nouvel Ordre, nous recevons Ulysse Gutmanfort, le président de l'association Copain Solidarité Étudiante, Copain CO apostrophe P et le chiffre 1, une association étudiante basée à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dont le gros de la mission est de venir en aide aux étudiants, peu importe leur université, en situation de précarité étudiante. Bonsoir Ulysse Gutmanfort, un grand merci à vous d'être sur Radio Campus ce soir.
Merci beaucoup, merci de m'inviter.
Donc vous êtes le président de Copain, association qui a été créée il y a tout juste, bientôt 3 mois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement à nos auditeurs ce que fait concrètement votre association ?
Eh bien, Copain, en deux mots, on essaye d'aider les étudiants. Alors, aider les étudiants, c'est très large. On a juste essayé de commencer par la chose la plus concrète possible. Ça s'est trouvé être l'alimentation à la croisée des énormément de questions, des énormément de problématiques. C'est une question de santé publique, évidemment, c'est une question d'alimentation, c'est une question d'hygiène, mais c'est aussi une question de pouvoir rythmer sa journée, pouvoir manger matin, midi et soir, pouvoir aussi bien dormir, parce que dormir le ventre vide, ce n'est pas vraiment dormir. C'est aussi lié au travail. Un étudiant qui travaille pour se nourrir, il a moins de temps à consacrer à ses études. Alors que s'il a moins à travailler, voire plus du tout à travailler, il peut potentiellement mieux réussir ses études. Donc, il fallait commencer par quelque chose de concret, c'est l'alimentation. Et puis, très vite, on a vu que, et puis je suppose qu'on va l'aborder, on a vu qu'énormément d'autres problématiques étaient Les étudiants étaient touchés par énormément d'autres questions et d'autres situations de précarité, et notamment d'autres facteurs aggravant la précarité, et notamment on distribue plus que de l'alimentaire aujourd'hui, mais également des produits d'hygiène, des protections périodiques, des fournitures Covid, des masques et du gel, histoire d'aider les étudiants le plus largement possible.
D'accord. On reviendra sur ces autres aspects, notamment précarité, la précarité menstruelle. Mais pour rester sur l'aspect strictement alimentaire dans un premier temps, ça veut dire quoi être un étudiant précaire, particulièrement donc sur le plan alimentaire en 2020 ?
Être un étudiant précaire, c'est être un étudiant qui doit choisir entre ses postes de dépenses et qui ne mange pas toujours à sa faim. Parce qu'une fois qu'on a payé le loyer, une fois qu'on a payé les différentes charges, une fois qu'on a payé ses fournitures universitaires, peut-être son ordi, bah, globalement, pour beaucoup d'étudiants, il ne reste plus grand-chose. D'autant plus quand les sources de revenus se tarissent. Beaucoup ont perdu leur travail, quel qu'il soit, ou alors les parents qui étaient derrière ne peuvent plus forcément aider. Et donc là, quand on se retrouve dans cette situation, on est dans une situation inédite où on a besoin d'aide, une aide extérieure. Et malheureusement, beaucoup d'étudiants doivent se tourner vers des associations comme Copains ou d'autres, et d'autres associations, pour avoir ce petit coup de pouce qui permet de garder la tête hors de l'eau et de ne pas avoir de problème.
D'accord. L'association que vous présidez, Copains, elle est encore très jeune. Donc, on disait bientôt 3 mois au compteur. Mais elle a très vite mené sa première action de distribution le 14 novembre. Comment est-ce que vous avez fait pour lancer la machine si rapidement en mobilisant et surtout dans une période aussi compliquée ?
Eh bien, on a même commencé avant notre première distribution, c'était le 1er octobre. Et puis, on a essayé de se délocaliser. Le 14 novembre, on était place du Panthéon parce qu'on voulait aussi se déplacer, se rapprocher du centre d'études des étudiants. Place du Panthéon, c'est central. Il y a la Sorbonne, il y a le Panthéon, il y a tout le quartier latin à un pas. En fait, ça a pu marcher aussi vite grâce à la bonne volonté d'énormément d'étudiants. On a lancé un appel au recrutement. Au départ, on était 6 amis de Parisiens. On a lancé un appel au recrutement et puis en 10 jours, on s'est retrouvé à être 150 étudiants à vouloir aider, des étudiants précaires, mais pas forcément, des étudiants touchés, mais pas forcément d'ailleurs. Et ce qui nous rapprochait, c'était qu'on voyait la situation empirer pour beaucoup d'entre nous, beaucoup de nos amis, et il fallait faire quelque chose, il fallait qu'on s'engage. Et c'est seulement grâce à la bonne volonté des étudiants, d'origines très diverses d'ailleurs, diverses universités, divers cursus universitaires, et en conjuguant nos forces, on a pu mettre en place des distributions très très vite, avoir différents partenaires et puis aider les étudiants, aider même beaucoup d'étudiants, ou en tout cas on essaye, on aide en moyenne 500 étudiants par semaine en distribuant 500 colis alimentaires. Mais donc c'est vraiment juste et seulement grâce aux étudiants.
D'accord, est-ce qu'il y a certaines ressources en particulier qui manquent aux étudiants et que vous pouvez rencontrer lors des distributions ?
Sur le plan alimentaire, nous, on essaye, au-delà de les aider à pouvoir manger, de pouvoir bien manger. Donc, on essaie de distribuer des produits de qualité, de meilleure qualité possible, bio, circuit court, des fruits, des légumes, et pas seulement des produits secs, même si, évidemment, c'est une base importante. Donc, on a ce problème sur le plan alimentaire. On a aussi d'autres postes de dépenses. Les masques, aujourd'hui, c'est une obligation, ça coûte cher. Du gel hydroalcoolique, on n'en achète pas quand on n'a pas les moyens d'en acheter. Et nous, on essaie de nouer des partenariats avec un laboratoire pharmaceutique, les laboratoires d'Armor, qui nous a donné 3000 unités de gel pour pouvoir aider les étudiants précaires à eux aussi lutter contre la propagation du virus. Également, quand on est une femme, on met beaucoup d'argent dans les protections périodiques parce que c'est un poste de dépense inévitable. Et quand on n'a pas les moyens, c'est des questions d'hygiène et ça peut être compliqué de pouvoir tout conjuguer. Donc nous, on essaye de les aider sur ce terrain-là, l'alimentation, mais pas seulement, pour pouvoir faciliter la tâche et enlever peut-être une charge mentale à tous ces étudiants qui doivent tirer des bouts, qui tiennent qu'avec des bouts de ficelle et des bouts de ficelle qui disparaissent ou en tout cas ça menuise au fur et à mesure que la crise continue.
Oui, pour revenir à ce que vous disiez par rapport à la précarité menstruelle, vous indiquiez sur France Inter qu'il y a 70% des bénéficiaires de vos distributions qui sont des femmes, c'est exact ?
C'est exactement ça. Et ce qui nous a le plus choqué, on savait que majoritairement, plus de femmes étaient à même à demander à bénéficier de ce coup de pouce que peuvent être des distributions alimentaires. Mais à ce point-là, 70%, voire 75% lors de certaines distributions, ça nous a, j'ai envie de dire, choqués. On ne s'attendait pas à une telle différence. Alors ça s'explique par différents moyens. Je l'ai dit, il y a des postes de dépenses que les hommes n'ont pas, sur les protections périodiques par exemple, mais c'est aussi des questions sociologiques. Nous, on a un pôle qui cherche des solutions, le pôle études, qui mène des enquêtes sociologiques pour savoir pourquoi. On va avoir les résultats en janvier. Et là, on est en train de savoir, on est en train de chercher comment ça se fait qu'il y ait une telle différence. Comment ça se fait qu'il y ait 70% des étudiants qui viennent bénéficier, qui soient des étudiantes ? C'est vraiment, ça nous a beaucoup choqués. Et il faut qu'on l'explique et il faut qu'on trouve des solutions à ce genre de questions.
Au-delà du genre, est-ce que vous avez réussi pour l'instant, bon, vous disiez que les résultats de votre enquête seraient plutôt disponibles en janvier, mais est-ce qu'à ce stade, vous avez réussi à dégager un ou plusieurs profils type du jeune étudiant précaire, que ce soit en termes de niveau d'études par exemple, ou de milieu social ?
Eh bien, c'est délicat de dire l'étudiant type, le profil type, évidemment, parce que c'est aussi délicat dans toute étude sociologique. Pour autant, on peut voir, donc au-delà du fait que majoritairement ce soit des femmes, on peut voir aussi que c'est majoritairement des étudiants en fin de cycle, des étudiants en L3, en Master 1, en Master 2, beaucoup parce qu'ils ne vivent plus chez leurs parents, donc ils doivent subvenir seuls à leurs besoins, ils ont des dépenses qu'ils ne supportaient pas quand ils vivaient encore chez leurs parents, ou parce qu'en Master, on a une plus forte mobilité encore, on quitte peut-être l'université dans laquelle on était proche de ses parents ou proche de son logement pour se rapprocher d'autres universités potentiellement. Donc on a ça, le genre, le niveau d'études, et puis voilà, on a une très grande diversité d'universités, des universités les plus prestigieuses, si on utilise ce genre de terme, comme des établissements beaucoup moins connus. Et donc, ça touche tout le monde, ça touche énormément d'étudiants, quels qu'ils soient, et les sources de difficultés sont extrêmement diverses. Il n'y a rien qui ressort entre la perte du boulot, l'insuffisance des aides, les parents qui ne peuvent plus subvenir, ou tout un tas d'autres explications pour comprendre pourquoi les étudiants sont dans cette situation. Bon, on verra janvier, je n'ai pas envie de m'avancer trop sur les conclusions de cette étude, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que malheureusement, ça touche beaucoup de monde, j'ai envie de dire, ça touche presque tout le monde, et bien au-delà des étudiants qui étaient déjà dans des situations compliquées avant les crises sanitaires et économiques.
Justement, sur ce point, l'association que vous présidez, elle a décidé de ne pas limiter les distributions uniquement aux boursiers, par exemple, ou à ceux qui auraient perdu des jobs étudiants, et de les ouvrir à tous, finalement, sans distinction. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix ?
C'était un choix qu'on a mûrement réfléchi. On hésitait, est-ce qu'il fallait utiliser un critère, comme certaines associations le font, et ça se justifie ?
Ou des critères comme quoi, par exemple
Justement, on a hésité, par exemple, à prendre le critère de la bourse, qui est le premier critère. La question qu'on a, c'est est-ce qu'on prend ce critère qui est central, évidemment, dans la question dans le milieu étudiant, mais c'est souvent sur le revenu, enfin c'est sur le revenu des parents. Et évidemment, une fois qu'on est sur le revenu des parents, certains étudiants n'ont pas les ressources qui correspondent au revenu de leurs parents. Ça exclut évidemment les étudiants étrangers qui ne sont pas boursiers du CROUS stricto sensu. Alors, ils peuvent avoir des bourses du CROUS, évidemment, mais ils ne sont pas boursiers du CROUS. Donc, ça voudrait dire enregistrer et comprendre avec d'autres critères, conjuguer d'autres critères, éventuellement le seuil de pauvreté. Mais là aussi, ça ne veut pas dire grand-chose. On hésitait aussi avec le reste à vivre, comme font les Restos du Cœur. Mais on s'est dit que dans tous les cas, quel que soit le critère qu'on allait mettre en place, ça risquait d'être assez excluant pour les étudiants. Un étudiant aujourd'hui, surtout au début de sa vie, un étudiant refuse de se considérer comme étudiant précaire, comme un étudiant qui a besoin d'aide. Et nous, on ne veut pas le forcer à dire, en fait, tu as besoin d'aide. Absolument pas. Ou en fait, quel qu'il soit, quelle que soit la raison pour laquelle il a besoin d'une aide, ça ne nous regarde pas. Nous, on va donner à toutes les personnes qui viennent pour accueillir le plus d'étudiants qui auraient besoin d'un coup de pouce. Et jusque-là, jusqu'aujourd'hui, on ne s'est pas trompé. Il n'y a pas eu de profiteurs, comme on aurait pu l'entendre, ou comme certains peuvent nous le reprocher, absolument pas. C'est toutes des personnes qui ont vraiment besoin d'un coup de pouce, quel qu'il soit, et qu'il soit ponctuel ou bien régulier.
D'accord. Pour finir, très concrètement, si nos auditeurs veulent vous aider, en fait, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ?
Il y a énormément de façons d'aider une association, quelle qu'elle soit. Le plus simple pour nous, c'est d'aller sur notre page Facebook ou notre compte Instagram, copain, co-p1-solidarité étudiante au pluriel. Et là, il y a différentes façons d'aider. Évidemment, on accepte les dons, qu'ils soient en argent, mais aussi en nature. Je ne sais pas, quelqu'un qui aurait envie de nous donner un paquet de pâtes, on accepte ce paquet de pâtes qu'on donnera à un étudiant. L'enfant qui travaille, qui fait les marchés, qui sait qu'il y a des invendus en fruits et en légumes, on a besoin de fruits et légumes pour pouvoir les donner à des étudiants. On accepte bien évidemment ces dons. De la même façon qu'il y a 3 jours, la mère d'un étudiant nous a appelé 30 kilos de miel dans sa cave, elle voulait nous les donner, on accepte évidemment ce miel avec grand plaisir. Donc, on accepte toutes les bonnes volontés, il ne faut pas hésiter à nous contacter, comme on accepte évidemment les bonnes volontés en bras. Il y a ce week-end, c'est la collecte nationale de la Banque alimentaire. Jusqu'à quelques jours, on cherchait des étudiants pour nous aider à collecter des denrées qui iront à d'autres étudiants. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter, à nous proposer toute forme d'aide. Et c'est grâce aux bonnes volontés, grâce à l'intelligence collective qu'on réussira à aider le plus globalement possible les étudiants dans cette période plus que compliquée.
Votre prochaine distribution, c'est demain, vendredi, c'est ça ?
Notre prochaine distribution, demain, vendredi, à partir de 17h. Pour s'inscrire, le but simple, c'est d'aller sur les réseaux sociaux. Sinon, je donne l'adresse mail ici, distribution.copain@gmail.com. Envoyez un petit mail, on vous répond dans l'heure. On vous redirige vers la prochaine distribution. Les distributions ont lieu tous les mardis, tous les vendredis, à partir de 17h. On essaie de diversifier au maximum les produits, de faire de la qualité et surtout, il y a de la joie, de la bonne humeur par les étudiants pour les étudiants. Il ne faut vraiment pas hésiter si on a besoin d'un petit coup de pouce.
Et pour le point de rendez-vous, c'est la maison des initiatives étudiantes à Bastille, c'est ça ?
Maison des initiatives étudiantes Bastille, 50 rue des Tournelles, dans le 3e arrondissement, juste à côté de République, juste à côté de Bastille. C'est génial.
Jusqu'à nouvel ordre, du lundi au jeudi, à 19h, sur Radio Campus Paris.
Et nous recevons à présent dans Jusqu'à nouvel ordre Adrien Liénard, membre du bureau national du syndicat étudiant UNEF et responsable des questions sociales au sein du syndicat. Bonsoir Adrien Liénard et merci beaucoup d'être sur Radio Campus ce soir avec nous.
Bonsoir et merci de l'invitation.
En tant que syndicaliste étudiant, est-ce que vous pouvez nous parler des difficultés spécifiques que rencontrent les étudiants étrangers en France depuis le début de la pandémie ?
Oui, alors là, la principale problématique que peuvent rencontrer les étudiants étrangers, c'est notamment liée aux questions de titre de séjour. Sur les questions donc notamment de renouvellement de titre de séjour, parce que les préfectures ont mis en place des procédures dématérialisées. Cependant, contrairement aux procédures qui sont faites sur place en préfecture, l'attestation qui est délivrée n'a pas la même valeur juridique qu'un récépissé. C'est-à-dire que les étudiants ne peuvent pas, par exemple, candidater pour des stages, pour des alternances ou tout simplement pour trouver un emploi, ce qui donc du coup ralentit en fait et ralentit tout simplement les études des étudiants et les empêche de pouvoir mener à bien leurs études parce que cette modalité-là n'a pas été prise en compte. Et après, par-delà ça, il y a quand même toute la question de la fracture numérique par rapport au renouvellement des titres de séjour qui pose problème. Notamment qu'on estime qu'en fonction des territoires, il y a entre 10 et 25% des étudiants qui sont en situation de fracture numérique. La question, effectivement, de pouvoir réaliser ces démarches de renouvellement de titre de séjour, aujourd'hui, c'est ce qui pose le plus de problèmes aux étudiants étrangers. Et le fait, notamment, d'être en période de confinement et donc d'avoir des contrôles de police renforcés. Si jamais on a des étudiants qui se retrouvent en situation irrégulière parce que leur titre de séjour a expiré pendant le confinement ou juste avant, ils ont d'autant plus de chances d'être arrêtés parce qu'ils sont en situation irrégulière.
Donc là, ce que vous dites, c'est qu'en fait, il y a des étudiants qui sont actuellement ou qui vont devenir, qui vont potentiellement être dans l'illégalité au courant du confinement et qu'en fait, il n'y a pas de solution actuellement pour eux.
C'est ça. Aujourd'hui, les étudiants se retrouvent bloqués par cette situation. Notamment, nous, ce qu'on demande à l'UNEF, c'est qu'il y ait un prolongement en fait, des titres de séjour qui soient réalisés pour après le confinement, comme ça a pu être le cas lors du premier confinement, justement pour éviter que des étudiants se retrouvent dans cette situation-là.
Et est-ce que du côté des facultés, des universités, est-ce qu'elles peuvent faire des exceptions en fait, compte tenu de la situation sanitaire actuelle pour pallier finalement un manque qui émanerait de l'État ?
Alors les problématiques qu'on a, c'est que c'est des questions qui sont de droit et ça ne relève pas des universités. Par exemple, un étudiant qui a besoin de trouver un stage, il ne peut pas signer son contrat auprès d'une entreprise s'il n'a pas s'il n'est pas en règle juridiquement. Et donc, en fait, même malgré une bonne volonté, on peut pas faire des exceptions là-dessus parce que sinon, les établissements ou les entreprises se mettent elles-mêmes dans des situations d'illégalité. Donc, du coup, elles ne veulent pas prendre ce risque-là. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir une extension des titres de séjour qui soit mise en place. Et surtout, ce qui est la procédure dématérialisée, il faut aussi qu'on puisse permettre en fait, d'avoir un récépissé qui ait la même valeur juridique qu'un récépissé qui soit donné lorsqu'un dépôt de dossier de titre de séjour est fait en présentiel et pas simplement une attestation du fait que le dossier est reçu. Parce qu'en fait, comme l'attestation n'a pas la même valeur juridique que le récépissé, toutes ces démarches-là ne sont pas possibles non plus pour les étudiants concernés.
Est-ce qu'il y a une différence entre les étudiants de l'Union européenne qui ont accès notamment à des programmes tels que Erasmus et à une libre circulation et ceux qui n'y appartiennent pas à cette Union européenne ?
Oui, il y a une différence, notamment parce que dans le cadre du projet Erasmus, ce sont des partenariats qui sont mis en place. Donc en fait, les démarches pour les titres de séjour ne sont pas du tout les mêmes. Et notamment, la capacité des préfectures à remettre en cause la question des titres de séjour, elle n'est pas la même. Parce que par exemple, un étudiant allemand ou italien qui vient passer un an en France dans le cadre de ses études, il a un accord entre l'université française et son université d'origine. Un étudiant étranger hors Union européenne, par exemple, qui vient pour réaliser l'intégralité ou une partie de ses études, c'est-à-dire sur plusieurs années, pas simplement en échange, il peut se voir en fait refuser notamment son titre de séjour, son renouvellement de titre de séjour, alors qu'il a validé son année, et, parce que la préfecture juge ce qu'on appelle le caractère sérieux des études, sauf qu'aujourd'hui, en période de confinement, il y a des étudiants qui ne peuvent pas, par exemple, aller en cours ou ne pas assister à des examens, justement à cause de la rupture numérique. Et donc aujourd'hui, des étudiants qui risquent en fait, en plus de rater leur semestre ou leur année, risquent en plus de se voir refuser leur renouvellement de titre de séjour, justement à cause de ces problèmes informatiques-là. Donc oui, il y a bien une différence en fait entre les étudiants qui sont européens et qui viennent dans le cadre Erasmus notamment et les autres étudiants étrangers.
D'accord. En 2018, le gouvernement il avait entamé une politique de forte augmentation des frais de scolarité pour les étudiants extérieurs à l'Union européenne, en l'occurrence, avec des sommes qui pouvaient atteindre les 2700 euros pour une année de licence et 1000 euros supplémentaires, 3700 euros pour les années de master. Quand on met ça en lien avec ce que vous décrivez aujourd'hui, on a un peu l'impression que le gouvernement ne s'intéresse aux étudiants étrangers que pour l'argent, en fait, que lorsqu'ils ont de l'argent. Donc, en fait, le suivi, une fois en France, c'est clairement pas une priorité.
Oui, tout à fait. Nous, c'est quelque chose qu'on dénonce aujourd'hui, cette augmentation des frais d'inscription. L'UNEF avait d'ailleurs fait des recours en justice là-dessus qui ont malheureusement été perdus. On a réussi sur un certain nombre d'universités à faire voter dans les conseils d'université que ces frais d'inscription ne soient pas appliqués. Par contre, on trouve face à un problème qui, pareil, est aussi un encadrement législatif au niveau national, c'est que les universités, les établissements ne peuvent exonérer que jusqu'à 10% du nombre d'étudiants non boursiers inscrits. Donc, c'est-à-dire qu'elles ont un plafond de nombre d'étudiants qu'elles peuvent exonérer. Et lorsque les étudiants, la proportion d'étudiants étrangers extra-européens dépasse ce plafond-là, même si les universités ne veulent pas appliquer les frais d'inscription, elles vont être obligées de le faire parce qu'elles sont restreintes dans leur capacité à pouvoir exonérer les étudiants. Et en plus de cette discrimination-là sur les frais d'inscription, il y a une autre discrimination qui est mise en place, c'est-à-dire que, par exemple, pour obtenir un titre de séjour, il faut justifier d'un certain nombre de ressources. Par exemple, et on retrouve un peu cette problématique-là sur le confinement, pour renouveler son titre de séjour, par exemple, il faut justifier de plus de 7600 euros de ressources financières. Donc, en plus des frais d'inscription, aujourd'hui, on a des étudiants qui ne peuvent pas, par exemple, renouveler leur titre de séjour parce qu'ils n'ont pas ces 7600 euros-là de ressources financières qu'ils peuvent justifier auprès des préfectures.
Très bien. Merci beaucoup, Adrien Lénard, et merci beaucoup d'avoir été sur Radio Campus ce soir pour parler avec nous de ces thématiques.
Merci à Glenn de la rédaction de Radio Campus Paris d'avoir mené ces deux interviews. Vous écoutez Radio Campus Paris, qui continue d'émettre sur le 93.9 jusqu'à nouvel ordre, après une pause musicale.
Nous n'irons pas plus loin, te dit le capitaine. Trop d'obstacles aujourd'hui pour gagner l'horizon. Des baleines épuisées gémissent sur la grève. Leur sang couvre des bouches comme autant d'hameçons, comme autant de collines occultant l'horizon. De crêtes insensibles à l'adagio des plaines. Je suis vraiment navré, te dit le capitaine. Et tu sens qu'il dit vrai et qu'il a le cœur bon. Dès lors la bouche vermeille d'une femme au harpon qui entre dans tes murs et saigne les baleines. Te fait des mois durant dédaigner l'horizon. Et lorsque tu le croises, snobber le capitaine. Quand tu rentres chez toi, tu te dis qu'il fait bon. Le mensonge est partout, infiltré dans tes veines. Tant tu aimes goûter au sang de la baleine. Déborde des lèvres de la femme au harpon. Mais un jour sur ta manche tire le capitaine. Les yeux exorbités, il te dit repartons. Il est temps de sortir du sommeil des reines. Car nul ne vous attend autant que l'horizon. C'est l'aube nord qui t'espère, l'Inlandis qui t'appelle, la Sierra Nevada qui la nuit crie ton nom. Et c'est la grande bleue qui rehausse le ciel, chacun d'eux te réclame et t'offre l'horizon. Mais celui-ci t'échappe, stoppé dans son élan, par des sommets hargneux, des vallées encaissées, des villes au cœur de pierre, aux formes insensées. Vois, la barbe te pousse et ton pas se fait lent, et tu entends au loin les plaintes des baleines qui, avant de finir sur la grève, ont sans doute connu cet horizon dont seul le capitaine espère encore pour deux que tu croises la route. Mais un jour au silence qui monte aux alentours, comme tes yeux se décollent, tu sais qu'on t'a laissé seul avec ton vieux rêve dont l'ombre est un vautour, qui dessous tes rayons sent la chair s'assécher, et comment de l'encercle il va pourtant entreprendre. Le décor s'aplanit, les courbes se défont, tout se dégage, oui, sans doute là de t'attendre. Celui qui vient à toi, il est là, l'horizon.
Quelques notes de l'horizon de Dominica sur Radio Campus Paris. Dominica, dont je n'ai pas écouté le dernier album, honte à moi. Je me rattraperai juste après, jusqu'à nouvel ordre.
Jusqu'à nouvel ordre, du lundi au jeudi, à 19h, sur Radio Campus Paris.
Et c'est l'heure de la revue de presse de Gwen. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Hier, à la une de Libé, la botte d'un policier au-dessus d'un migrant à terre qui semble inanimé.
Et sur le côté de cette photo terrible, un titre, « Casse de la République ». Les mots nous manquent pour décrire le démantèlement du camp de migrants par les forces de l'ordre. Un camp qui venait tout juste de s'installer place de la République une semaine après l'évacuation de milliers de migrants dans un campement de Seine-Saint-Denis. Ce soir-là, près de 500 migrants, accompagnés par des bénévoles et des journalistes, ont subi une véritable chasse à l'homme jusqu'à Aubervilliers. Comme on peut le lire dans Libé, un vent d'impunité est soufflé par les autorités. Le ministre Gérald Darmanin a demandé l'ouverture d'une enquête administrative confiée à l'IGPN pour seulement se focaliser sur la responsabilité individuelle de quelques policiers violents, alors que de nombreuses images semblent nous montrer des violences policières tout au long de cette nuit de la honte.
Mais quid du préfet de la police de Paris, Didier Lallement ?
Eh bien, sans surprise, sa responsabilité n'est pas remise en cause. D'après Libé, depuis mars 2019, il bénéficie d'un soutien total de la part du ministère de l'Intérieur. Mais une enquête de l'inspection générale de l'administration aurait pu questionner les ordres qu'il a donnés, à savoir saisir les tentes des migrants sans-abri tout en les chassant de Paris pendant des heures, par le biais de coups de matraque, LBD et gaz lacrymogène. Les violences policières ébranlent l'image de la France comme pays des droits de l'homme. Sans les photos, sans les vidéos des citoyens et des journalistes, indépendants ou non, comme Taï Kalanda ou Rémi Buzyn, ces violences policières n'auraient pas pu être diffusées. Et cela n'a pas empêché l'Assemblée nationale d'approuver le texte de loi sur la sécurité globale en première lecture, au lendemain de cette évacuation forcée. Selon Bastamag, plusieurs organisations, dont Amnesty International, le Secours catholique, Médecins sans frontières, Médecins du Monde et la CIMAD, demandent la création d'une commission d'enquête parlementaire sur, je cite, « les violations des droits des personnes migrantes et des réfugiés ».
Dans Le Monde du 24 novembre, on apprend que l'inceste est un crime perpétué à 96% par des hommes.
Oui, c'est une étude de l'INED qui révèle que l'inceste est un phénomène massif touchant tous les milieux sociaux. D'après les recherches en sciences humaines, entre 5 et 10% des Français ont été victimes de violences sexuelles dans l'enfance, qui se déroulent dans 80% des cas dans la sphère familiale. Pour l'anthropologue Dorothée Ducy, je cite, nous sommes tous socialisés, par agression sexuelle ou par éclaboussure, dans cet ordre social qui interdit théoriquement l'inceste, mais où il est pratiqué couramment. Je vous conseille vivement l'article de Solène Cordier dans ce numéro du Monde pour en savoir plus.
Hier, comme chaque 25 novembre, a lieu la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes.
Et à cause de l'épidémie et de deux confinements cette année en France, on observe une explosion des violences à l'égard des femmes. Dans le Huffington Post, Céline Masse, présidente d'ONU Femmes France, annonce qu'à partir du 25 novembre et jusqu'au 10 décembre, une campagne mondiale de mobilisation et de collecte de dons portée par ONU Femmes va agir contre les violences faites aux femmes. La mobilisation pour les droits des femmes ne faiblit donc pas, en dépit du confinement et de l'épidémie.
Le tour du monde en quelques articles, un défi une nouvelle fois relevé par Gwen dans sa revue de presse, merci beaucoup. Vous écoutez toujours Radio Campus Paris et tout de suite, c'est l'heure du Zoom.
Jusqu'à nouvel ordre, du lundi au jeudi à 19h sur Radio Campus Paris.
Le Zoom de ce soir vous est présenté par Audrey. Il est question de documentaire, plus précisément d'un documentaire sur la mobilisation de la jeunesse.
Bonjour Adèle Flo et Alizée Chiappini. Vous êtes deux jeunes réalisatrices françaises. Vous êtes les réalisatrices du documentaire Désobéissante, qui revient sur les actions de désobéissance civile dans le cadre du mouvement pour le climat. À travers ce documentaire d'immersion, vous montrez l'organisation d'un état-major en France, la base. C'est un lieu stratégique de la mobilisation pour le climat à Paris, entre l'été 2018 et l'été 2019. On y observe dans votre documentaire la mobilisation de la base, sa construction et son apprentissage auprès de ses frères et sœurs en Allemagne et en Angleterre. Première question, pourquoi avoir choisi d'enquêter sur la désobéissance civile pour le climat ?
Dans un premier temps, l'idée n'était pas tant d'enquêter sur la désobéissance civile, mais vraiment sur le mouvement climat, c'est-à-dire d'essayer de comprendre cette nébuleuse, cette galaxie d'organisations qui commençait à ramener pas mal de monde dans les rues et de voir qui était à sa tête, comment il s'organisait et qu'est-ce qu'il faisait. Et puis après, quand on a commencé à filmer avec Alizée à la base, dans le quartier général de la mobilisation climat, on s'est rendu compte qu'au cœur de leur stratégie, il y avait la désobéissance civile. Et évidemment, ça nous a beaucoup intéressés. D'abord parce que ce n'est pas très courant en France, et puis parce que c'est un mode de lutte qui est très impliquant en fait, pour les militants, puisqu'ils s'exposent juridiquement, parce que ça demande beaucoup de préparation, parce que ça demande beaucoup de formation. Sans doute aussi parce que c'est un mode d'action qui est en dialogue direct avec l'état de droit. Que c'est un mode d'action très concret, très risqué sur le terrain, mais qui en même temps va tenter d'agir sur l'état de droit, de façonner les lois en tant que citoyen.
Comment définiriez-vous la désobéissance civile ?
La désobéissance civile, c'est une méthode de lutte non violente qui est héritée en fait du 19e siècle et qui dès le début se pose comme alternative à la contestation plus violente, plus confrontative qu'on peut trouver dans le mouvement social en général. Donc, la désobéissance civile, si je résume, c'est de transgresser une loi, tout d'abord de manière à alerter les autorités, à manifester son mécontentement, mais aussi dans l'espoir de changer une loi.
Qu'est-ce qui vous a amené à réfléchir sur le sujet ?
Je crois que ce qui nous intéressait beaucoup, c'est que finalement, c'est assez nouveau en France. Depuis plusieurs décennies, en France, on pratique plutôt un militantisme plus classique, avec un répertoire d'actions qui va de la grève à la manifestation, qui sont d'ailleurs des actions tout à fait encore tout à fait d'actualité et pratiquées par le mouvement climat. Il ne s'agit pas du tout de les opposer. Voilà, on avait envie de comprendre comment ça fonctionnait, surtout pourquoi ils étaient allés vers cette méthode d'action qui est plus risquée et qui était moins habituelle.
Pourquoi ne pas s'être axé également sur les mouvements de la jeunesse comme Youth for Climate ?
Alors, Youth for Climate était sur le terrain en même temps que l'on tournait. Donc, concrètement, ils sont dans le film. Sandy, par exemple, qui est un personnage important du film, qui est une jeune activiste que nous avons suivie dans ses premiers pas à la base, fait partie de Youth for Climate, participe à l'organisation des grèves pour le climat, parle au nom de ces organisations-là de jeunes, puis peu à peu consacre davantage son temps à Alternativa et à NVCOP21 à la base. Au fond, ils sont présents dans le film. Le fait est que ces organisations-là n'étaient pas présentes à la base. Elles y passaient, elles participaient même aux manifestations. Enfin, voilà, il y avait vraiment beaucoup de convergence entre ces mouvements de jeunesse et les mouvements de la base.
Alizée Chiappini, vous avez travaillé sur le documentaire Après-demain qui revenait sur les solutions et les actions pour préserver le climat. Est-ce que la désobéissance civile est, selon vous, une des solutions pour alerter sur le changement climatique ?
Alors, dans le film Après-demain, l'angle était vraiment d'aller voir quelles solutions très premier degré au niveau local et dans la vie de tous les jours on pouvait trouver comment on fait pour avancer dans ce monde qu'on essaye de changer. Sur la désobéissance civile et sur notre film avec Adèle, c'est beaucoup plus un angle politique. Les jeunes militants que l'on filme, il y a le désir d'aller interpeller le gouvernement. Donc, c'est le désir d'aller vraiment interpeller les gens qui peuvent concrètement faire changer les choses. Pour moi, la désobéissance civile est une des façons de faire qu'on peut changer et donc on peut lutter contre le dérèglement climatique.
Êtes-vous inquiète du changement climatique ?
Alors oui, évidemment. Surtout pendant 2 ans avec Adèle, on a été confrontés à tous ces chiffres et tous ces textes que répétaient tous nos témoins que l'on a suivis. Et ils portaient ces messages d'alerte et donc ils relataient des infos vraiment pas joyeuses du tout, voire carrément effrayantes et dramatiques. Donc, j'étais déjà concernée, j'étais déjà inquiète. Et oui, là, d'avoir été pendant 2 ans immergée dans cet environnement ne font que prendre encore plus conscience du problème. J'ai découvert dans cette lutte et du coup, dans notre histoire, Adèle et moi, donc dans l'histoire du film, c'est-à-dire notre travail à nous sur le terrain, le fait de faire ce film me fait dire qu'il y a une petite pierre à l'édifice sur le fait de médiatiser ce message et cet engagement. Et donc, un peu d'espoir là-dedans, quoi, dans ce que nous, on a fait sur ce terrain.
Adèle Flo, vous avez réalisé des documentaires sur des enjeux sociaux contemporains. Votre dernier documentaire traite de l'avortement. Dans Désobéissanteux, vous remarquez que la justice climatique et la justice sociale ne peuvent se faire l'une sans l'autre. Vous pensez qu'il est encore possible de joindre ces deux luttes ?
C'est un de mes plus beaux souvenirs de tournage, je crois. C'est quand on était à Saint-Nazaire. On avait suivi Sand, une gilet jaune qui avait participé à une action climat. Elle allait à l'Assemblée des Assemblées des Gilets jaunes. Donc on s'est dit, bon, bah, on va aller voir là-bas où on en est de cette convergence et essayer de prendre le pouls côté gilet jaune. Est-ce qu'eux aussi, ils sont chauds de rejoindre la cause climat ou pas du tout ? Et aussi, est-ce qu'ils se comprennent ? Est-ce qu'ils se sentent touchés par ces messages ? Est-ce qu'ils ont les mêmes techniques de lutte ? Enfin, tout ça nous intéressait. On arrivait avec Sand qui voulait partager avec les autres gilets jaunes les méthodes d'action de désobéissance notamment. Justement, la désobéissance civile l'avait beaucoup convaincue, donc elle avait très envie de le partager avec d'autres gilets jaunes. Et en fait, en arrivant là-bas, c'était très surprenant parce qu'ils étaient très nombreux à avoir découvert la désobéissance civile sur le terrain. Et sous nos yeux, ils ont improvisé le premier atelier d'écologie de ce type d'assemblée. Il y avait une vraie motivation et une vraie conscience vis-à-vis de l'enjeu écolo. Et ce qui était encore plus passionnant, c'est qu'ils n'étaient pas seulement en train d'adopter les revendications des militants climat, mais aussi de s'en saisir complètement et au fond de créer une écologie populaire d'un nouveau type et qui, je crois, est importante dans les débats qui nous occupent aujourd'hui.
Qu'est-ce que l'écologie populaire, selon vous ?
Ce que j'appellerais écologie populaire, c'est quand tout d'un coup, ça vient concrètement poser problème dans nos vies. C'est-à-dire en termes de pollution, en termes de transport, en termes d'alimentation. Qui est une question qui revient beaucoup là avec l'épidémie de Covid. C'est quelque chose qui prend corps dans nos vies quotidiennes, je dirais.
Votre documentaire est diffusé dans le cadre de l'opération transmédia et internationale Il est temps. Il est temps, c'est un questionnaire sur notre consommation, si on fait confiance aux médias, à la politique, aux forces de l'ordre, si on est inquiet face à l'urgence climatique ou si on est heureux. À l'heure actuelle du débat avec Amazon, de la crise sanitaire, est-il encore temps de faire de la désobéissance civile ?
Bah, il est temps de faire de la désobéissance civile parmi d'autres actions, c'est-à-dire que la désobéissance civile est une des solutions qu'il est évidemment encore temps plus que jamais de faire, mais il est évidemment toujours temps et encore plus temps d'être encore plus radical, d'aller encore plus loin dans les modes d'action. Tout dépend les curseurs de chacun et de l'interprétation des choses, mais la désobéissance civile, pour moi, c'est pas parce que, évidemment, c'est de plus en plus urgent d'agir que pour autant la désobéissance civile devient un mode d'action obsolète. Même en ligne, ça continue de se mobiliser, dans les institutions, ça continue aussi de se mobiliser. Là, il y a eu un député européen qui a fait la grève contre la faim pour obtenir une taxe, pour que les gains de cette taxe permettent d'arriver à des fins plus en raccord avec ce que défend le film. Enfin, notamment sur la dimension écologique, mais voilà, il est temps, oui, il est encore plus temps, non, mais il est surtout temps d'agir.
Est-ce qu'il est temps de changer notre consommation ou c'est déjà trop tard ?
Les activistes seraient très à même d'y répondre parce que eux, c'est ce qu'on a essayé de raconter, c'est les questions qui se posent pour eux au quotidien en fait, c'est est-ce qu'on peut se contenter des modes de consommation, comment agir dessus, dans quelle mesure surtout ? Je crois qu'en tout cas, les activistes qu'on a suivis, ils opposent pas les modes d'action entre eux. Et d'ailleurs, c'est ce que raconte aussi l'enquête « Il est temps ». c'est que finalement, il y a des corrélations entre les petits pas et les grandes actions. Que les militants qui réduisent leur consommation de viande vont être aussi les plus opposés au système capitaliste. Il y avait des croisements comme ça assez surprenants, où au fond, on a tendance à opposer les citoyens qui pratiquent des changements au quotidien et ceux qui sont dans l'activisme politique. Dans les faits, il semblerait que ce soit un peu les mêmes, que l'un mène à l'autre en tout cas.
Merci beaucoup. On peut retrouver votre documentaire sur la chaîne YouTube d'Arte ou lors de la soirée du 24 au 27 novembre sur Arte, avec d'autres jeunes réalisatrices et réalisateurs qui abordent sans détour les envies et les craintes de la jeunesse.
Merci à Audrey à la présentation de ce Zoom. Vous écoutez Radio Campus Paris.
Jusqu'à nouvel ordre, du lundi au jeudi à 19h sur Radio Campus Paris.
Restez encore quelques minutes avec nous dans Jusqu'à nouvel ordre, puisque tout de suite c'est l'heure de la chronique d'Alexandra.
J'aimerais vous parler aujourd'hui d'un projet qui vous fera découvrir un nouveau monde des saveurs que, je vous le garantis, vous ne connaissez pas. Du moins, je l'espère. Le projet s'appelle The Ouroboros Steak.
Un steak ? Un plat novateur, tu dis ?
Oui, et il est tellement précurseur que le London Design Museum a décidé de le présenter à l'exposition Business Designs of the Year. Les steaks, non végétariens, il faut le préciser, qui ont été exposés, ont été entièrement créés sans utiliser des matières animales.
Attends, je t'interromps. Certes, la culture de viande en laboratoire se développe depuis quelques années déjà, mais je ne vois pas comment nous pouvons qualifier cette idée de novatrice.
Tu as raison. Et non. Contrairement à ce que tu suggères, ce projet est aussi une critique de l'industrie de la viande in vitro qui n'est en vérité pas autant respectueuse des animaux que l'on pourrait s'y attendre. Pourquoi ? Car elle repose sur un sérum de veau fœtal prélevé au moment de l'abattage des vaches gestantes. La culture de viande en labo a pour but d'éradiquer la souffrance animale, donc cette pratique semble paradoxale, n'est-ce pas ?
D'accord, je vois ce que tu veux dire.
En réponse, Andrew Pelling, Orkan Telan et Grace Knight ont conçu des Ouroboros Steak, composés d'un kirepa permettant à ses utilisateurs de créer leur propre steak gastronomique grâce à leurs cellules. Les créateurs n'ont pas manqué de créativité en nommant cette nouvelle viande humaine. L'Ouroboros est une représentation d'un serpent se mordant la queue, symbolisant un cycle d'évolution renfermé sur lui-même, donc un éternel retour. Quelle idée de génie, cultiver sa viande par soi-même.
Comment cette... Élevage se passerait-il ?
D'abord, les consommateurs achètent un kit avec des tampons pour recueillir des cellules, des rangements pour les élever et du sérum humain pour les nourrir. Le sérum est dérivé du sang périmé des dents. Les créateurs expliquent que le sang humain périmé est un déchet pour les systèmes médicaux. Or, il est moins cher et plus durable que le sang frais, mais moins bien accepté culturellement. Pour moi, ce n'est pas étonnant. Après tout, parmi les consommateurs de notre sang, nous comprenons les moustiques, les tiques et les vampires.
Effectivement, que des mauvaises associations. Mais dis-moi, que se passe-t-il ensuite ?
Il faut attendre que les morceaux de viande grandissent. 3 mois plus tard, ils devraient être prêts à la dégustation. Sur les images publiées sur le site du musée, ils auraient la taille d'un amuse-gueule. Si cette idée vous révulse, les créateurs vous répondent. Les gens pensent que se manger soi-même est du cannibalisme, mais ce n'est techniquement pas le cas.
Techniquement, tu dis ?
Ils expliquent. Nous ne préconisons pas les se manger soi-même comme une solution réaliste qui répondra aux besoins en protéines des humains. Nous nous posons plutôt une question, quels seraient les sacrifices que nous devrions faire pour pouvoir continuer à consommer de la viande au rythme actuel ? À l'avenir, qui pourra se permettre d'acheter de la viande animale ? Il n'y aura peut-être d'autre choix que de cultiver sa propre viande. Reste à savoir si nous réussirions à surmonter la difficulté psychologique. Serions-nous capables tout de même de nous manger nous-mêmes ? Ou encore pire, goûter des membres de notre famille, des amis, bref, je sais que c'est l'heure de dîner, donc finissons-en avec cela. Bon appétit.
Eh bien, bon appétit à toi, Alexandra, puisque sonne bientôt l'heure du repas dans de nombreux ménages. Et surtout, merci pour cette chronique en conclusion de ce Jusqu'à nouvel ordre. Merci une nouvelle fois à Alexandra, ainsi qu'à Mathilde pour leurs chroniques respectives. Merci à Glenn à l'interview, Gwen pour sa revue de presse et Audrey à la présentation du Zoom. Merci à ma collègue et pas moins camarade, Margot, non pas ce soir au platine, mais bien au montage de cette émission. Et bien sûr, merci, mille merci à Anaïs, à la production et à la coordination de Jusqu'à nouvel ordre. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur radiocampusparis.org ainsi que sur toutes les applications de podcast et réseaux sociaux dignes de ce nom. Tout de suite de la musique sans aucun doute digne de Radio Campus Paris, de quoi vous faire patienter avant de retrouver les copains de Mapmonde à 21h. Passez une belle soirée sur le 93.9 FM et surtout à samedi 14h à République pour marcher contre la loi sécurité globale cordialement.